Après la mazurka. Pendant le souper, le jeune homme dont il a été question se mit à notre table d'enfant et me prêta une attention qui m'eût flattée si j'avais pu, après tout ce qui venait de m'arriver, prendre intérêt à quelque chose. Mais coûte que coûte, le jeune homme avait décidé de me distraire. Il m'agaçait, m'appelant « brave ». Et aussitôt que les grands ne nous regardaient plus, il remplissait mon verre du vin de différentes bouteilles et m'obligeait à le boire. À la fin du souper, quand le maître d'hôtel vint avec sa bouteille de vin de champagne entourée d'une serviette, le jeune homme insista pour qu'il me versât une flûte pleine, qu'il me forçât à boire d'un trait. Je bus, et aussitôt je sentis une douce chaleur envahir tout mon corps, des élans de bonté à l'adresse de mon bienfaiteur, et d'irrésistibles envies de rire pour la moindre chose. Tout à coup, on entendit de la salle de danse les airs du Grossvater, et on se leva de table. Notre amitié avec le jeune homme finit là. Il alla chez les grands, tandis que, n'osant pas le suivre, je m'approchai avec curiosité de Madame Valakina pour entendre ce qu'elle disait à sa fille. « Alors, tu veux, encore une petite demi-heure, » suppliait chaleureusement Sonitchka. « Vraiment, c'est impossible, mon ange. »« Mais pour moi, je t'en prie, » faisait-elle en caressant sa mère. « Est-ce que tu seras gai demain si je tombe malade ?» disait Madame Valakina, qui commit l'imprudence de sourire. « Ah, tu as permis ! Nous restons !» criait Sonetchkina en sautant de joie. « Ah, comment faire avec toi ? Va alors, danse !»« Te voilà un cavalier !» dit-elle en me désignant. Sonitchka prit mon bras et nous courûmes au salon. Le vin bu, la présence et la gaieté de Sonitchka me firent entièrement oublier l'aventure de la mazurka. Je faisais les choses les plus amusantes avec mes pieds. Imitant le cheval, je courais au trot, levant fièrement mes pieds, ou je piaffais sur place, comme un barine qui se fâche contre son chien. Avec cela, je riais de tout mon cœur, ne prêtant pas la moindre attention à l'effet que je produisais sur les spectateurs. Sonitchka ne cessa pas de rire non plus. Elle riait de ce que nous tournions en nous prenant par la main. Elle riait en regardant un vieux barine qui, levant lentement les pieds, sautait le mouchoir avec des airs qui pouvaient faire supposer que c'était très difficile à faire. Et moi, de rire et de sauter presque jusqu'au plafond pour montrer mon adresse. Traversant un instant le cabinet de la babouchka, je me regardais dans la glace. J'avais la figure en sueur, les cheveux en désordre et hérissés, plus droits qu'à l'ordinaire. Mais l'expression dominante de mon visage était la gaieté, le contentement. Si j'étais toujours comme maintenant, pensais-je, je pourrais plaire tout de même. Mais quand je regardais, encore une fois, la ravissante figure de madame qui était là, respirant la gaieté, la bonne humeur, limpide, sereine, insouciante de sa beauté, élégante et suave, je compris que j'étais bête d'espérer attirer l'attention d'une créature aussi admirable. Je ne pouvais pas compter sur l'amour réciproque, non. Je ne pensais même pas à cela. Mon âme était assez pleine de bonheur sans cela. Je ne comprenais pas que, pour le sentiment d'amour qui emplissait mon âme de bonheur, on pouvait demander un plus grand bonheur encore et désirer quelque chose de plus, excepté que ce sentiment ne mourût pas. Je me trouvais heureux ainsi. Le cœur me battait comme celui d'un pigeon, le cœur circulait vif, rapide, du cœur aux extrémités et des extrémités au cœur. J'étais heureux. Quand nous traversions le couloir près des chambres noires sur le vestibule, je la regardais et je pensais « Quel bonheur ce serait pour moi de pouvoir toute l'éternité vivre avec elle, là, dans cette chambre obscure, sans que personne au monde le sache. »« C'est très gai aujourd'hui, n'est-ce pas » dis-je d'une voix tremblante et précipitant mes pas, m'effrayant non pas tant de ce que je disais, de ce que j'aurais voulu dire. « Oui, très !» répondit-elle en tournant la tête de côté avec une expression tellement ouverte et bonne que je cessais d'avoir peur, surtout après le souper. Ah, si vous saviez combien je regrette, je voulais dire plus, mais je n'osais pas. Que vous partiez bientôt. Nous ne nous verrons plus. Pourquoi ne nous verrons-nous plus? Dit-elle en regardant la pointe de ses bottines et en traînant son petit doigt sur le paravent encadré près duquel nous passions. Tous les mardis et vendredis, nous allons avec maman sur le boulevard Zverski. Est-ce que vous n'y allez pas vous promener? Je demanderai mardi qu'on m'y conduise, et si on me refuse, je me sauverai seule, sans chapeau. Je connais le chemin. Savez-vous, reprit tout à coup Sonitchka, quand je parle aux garçons qui viennent chez nous, je dis toujours tu. Disons-nous tu aussi. Veux-tu? Ajouta-t-elle en inclinant la tête et en me regardant droit dans les yeux. En ce moment, nous entrâmes dans le salon. Et la deuxième partie du Großvater commença. Commencez, dis-je, quand le bruit de la musique put couvrir mes paroles. Commence-toi, et non pas commencez, rectifia Sonitchka en riant. Le Großvater se termina, et je ne pus lui dire une seule fois tu, bien que j'en cherchasse toutes les occasions. Je n'en avais pas le courage. Veux-tu? Commence. Ces mots sonnaient dans mes oreilles et produisaient sur moi comme une certaine griserie. Je ne voyais rien et personne, sinon Sonitchka. Je vis comment on souleva ses boucles, comment on les arrangea derrière les oreilles et découvrit son front et ses tempes. Je vis comment on l'enveloppa dans un châle vert si soigneusement qu'on ne voyait plus que le bout de son nez. Je remarquai que si elle n'avait pas pris soin de faire avec ses doigts roses un petit trou près de la bouche, elle aurait étouffé. Je la suivis de l'œil, descendant l'escalier derrière sa mère, et se tournant vivement vers nous, faire une dernière inclinaison de la tête et disparaître. Volodia, Ivine, le jeune prince, moi, nous étions tous amoureux de Sonitchka. Et de l'escalier, nous la suivions tous des yeux. Pour qui cette dernière inclinaison de tête? Je ne sais pas, mais en ce moment-là, j'étais fortement persuadée que ce ne pouvait être qu'à mon adresse. En disant adieu aux Ivines, je parlai très nonchalamment et même froidement avec Seryoja, et je lui serrai le bras. A-t-il compris que, de ce jour, il avait perdu tout mon amour et aussi toute son influence sur moi? Peut-être l'aura-t-il regretté, malgré qu'il se soit constamment efforcé de paraître indifférent. Pour la première fois de ma vie, j'étais infidèle à l'amour. Et, pour la première fois, j'éprouvais les douceurs de l'amour. Il m'était agréable de changer un sentiment usé contre un amour tout plein de mystère et d'innocence. Dans le même temps où je cessais d'aimer, je recommençais à aimer, ce qui veut dire que j'aimais double, bien mieux qu'auparavant.